Provincia Orientale. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est une de nos combattants au Père Sangage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, c'est-à-dire de mépriser, d'en trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Okapi, la fréquence de la paix. La RDC est membre de plusieurs organisations régionales et internationales, mais elle est moins représentée ou même quasi inexistante au sein des administrations de ces structures. Le pays compte énormément de femmes et hommes de qualité et formés dans les meilleures universités du monde. Le pays pouvait bien mettre ses ressources humaines au service des organisations internationales dont il est membre. Malheureusement, c'est l'absence totale. Que faut-il faire pour encourager une forte représentation des Congolais aux organismes internationaux? Vous pouvez participer à ces débats en nous rejoignant à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler directement au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Merci à Alain Goy qui assure la technique de ce programme qui est réalisé par Pierrot Elamegi et Julie Peza Bongonda, un programme coordonné et présenté par J.R. Mugembo sous la supervision d'Elodar Moulamba. Excellente condition d'écoute à tous et à tous.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Bon nombre des États ont compris les opportunités qu'offrent les organisations internationales pour s'affirmer sur la scène internationale, en ont fait un enjeu diplomatique pour influencer dans la prise des décisions mondiales et affirmer également leur puissance. Ainsi, ils font la classe des postes stratégiques au sein des organisations internationales et placent leurs ressortissants, peu importe les considérations politiques, encore moins tribales ou ethniques. Nous avons en ligne le professeur Stéphane Dita, docteur en management de l'administration internationale. Il est avec nous. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Alors, par rapport à cette situation, est-ce qu'on peut dire qu'elle est tributaire d'une absence totale des politiques publiques ou des volontés politiques de placement des cadres congolais au sein de l'administration politique internationale pour le cadre de notre pays?
Oui, je pense que votre question est très probante et intéressante, dans le sens que les problèmes du Congo quant à la sous-représentation reposent sur deux facteurs. Le premier est qu'il y a une certaine inadéquation de nos diplômes par rapport aux besoins de l'économie mondiale actuelle. Nous avons résisté avec beaucoup, je pense, d'amertume, mais aux réalités réelles du monde avec les systèmes, par exemple, et pour les retours de l'Amérique dans l'UNESCO, l'Europe a compris qu'il fallait immédiatement aller au LMT pour qu'il y ait une certaine compatibilité des diplômes, et bien que le Congo soit parmi les premiers pays qui ont commencé les systèmes avec l'arrivée de l'école de la santé et à l'université de Kinshasa, les MPH, mais jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à reconnaître que le monde reconnaît une nomenclature internationale uniforme et harmonisée, qui est la licence, et le master et le doctorat. Ça, c'est le premier problème. Le second, et je pense que je connais bien, que nous continuons à appliquer les systèmes de 1950, alors que nous visons à l'émergence en 1930. Donc les noms des diplômes, les filières que nous concentrons sont les mêmes filières que nous avons 50, alors que le monde a changé d'une manière très régulière. Je parle donc, par exemple, qui sont ces Congolais, qui sont ces Africains qui entrent dans les organisations internationales. Il y a ceux qui ont fait les masters en public administration, alors que dans notre pays, il n'y a pas une école qui forme les gens à l'administration publique. Et il y a des gens qui font le management pour la gestion des territoires, alors qu'il n'y a pas d'école qui en forme. Donc nos étudiants, nos enfants, autant que qualifiés les autres, se retrouvent avec une incompatibilité dangereuse, que les diplômes qu'ils ont ne répondent pas aux critères, à part la nomenclature qui est un problème, c'est aussi les filières. Alors, les filières telles que, je disais, les MBA, les MPH, les MPA, les MBA, les choses ne sont pas connues ici. Les Européens ne reconnaissent pas qui a NDS en ceci, NDS en cela, mais demandent qui a un master en ce domaine, un PhD dans ce domaine.
Oui.
Alors, c'est ça qui
oui.
est le problème, c'est la résistance au système.
Voilà, le professeur, encore vos propos, c'est vrai, vous avez évoqué deux facteurs, à savoir l'inadéquation de nos diplômes et aussi l'application du système de 1950 en rapport avec les filières proposées. Mais cela semble être un peu en contradiction avec la réalité sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, selon plusieurs statistiques, la RDC compte énormément de femmes et hommes de qualité et formés dans les meilleures universités du monde. Parce que là, c'est comme si vous limitez la formation que d'une manière locale, ici au pays, avec l'université de Kinshasa et tant d'autres universités supérieures et universitaires. Mais il y a des Congolais, en tout cas aujourd'hui, on raconte des milliers et des milliers, qui ont fait des études dans les universités du monde. C'est qu'ils ont des documents homologués, des diplômes qui, en fait, peuvent encore compétir.
Oui, il y a une politique actuellement dans les organisations nationales qui veut que les Africains retournent en Afrique. Donc, on veut concentrer d'abord sur les Africains qui ont la réalité du terrain. Et il y a toujours, on a compris qu'il y a une inadéquation encore avec les Africains qui vivent bien dans les pays de l'Oncle Sam ou dans les pays de Mossard. Et bien, quand ils arrivent ici, ils sont aussi inefficaces parce qu'ils sont étrangers chez eux. Alors, ce qu'on doit, ce qu'on fait dans d'autres pays, je parle des pays anglophones et les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'ils ont essayé de faire un parallélisme convergent avec la réalité qui se trouve dans leur pays et les réalités qui se trouvent dans le monde. C'est ce parallélisme-là qui fait que on a des compétences qui font un certain pont entre les pays, les réalités de l'Afrique et les réalités du monde et les exigences.
Alors, professeur, avant d'ouvrir les standards, c'est vrai, à une certaine époque, nous avons connu quand même, si pas une forte représentation des Congolais dans les différentes organisations régionales et internationales. On peut citer vers les années 80 la présence quand même au niveau du secrétariat général de l'UIA, de l'Union africaine, des Congolais, pour ne pas les citer, professeur Kamanda, qui en fait après a été rappelé par le président Mobutu pour travailler ici au pays. Nous pouvons encore citer les cas de Lunda Bululu avec le CAC. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais à un certain moment, on a senti l'absence totale de politique publique. Est-ce qu'on peut lier ça directement à la volonté publique, politique, de placement des cadres congolais qui manquent aussi?
Non, je pense que dans les organisations internationales, il y a aussi les facteurs et puissance d'un pays. Quand vous citez l'OIA, par exemple avec le professeur Kamanda, et que j'ai salué en passant d'ailleurs, je pense qu'ici, il y avait une forte présence d'un régime qui avançait une idée aussi, et c'était l'authenticité, les recours à l'authenticité, et la présence des Congolais, non pas seulement dans l'OIA, mais presque dans toutes les pensées, toutes les universités du monde, on étudiait ce que les Congolais pensaient à cette valeur de l'authenticité qui était quand même égalée à la pensée des premiers communs. Donc, je pense que là-bas, il faut faire la différence avec la présence d'une forte détermination des idées et qui a fait que le Congo à ce moment-là n'était pas quand même une puissance à négliger. Nous étions dans la sous-région en train de nous occuper des pays de la sous-région et nous avions une force présente, que ce soit dans les sports, que ce soit dans d'autres domaines. Donc je pense que oui, le professeur Lila Bouloulou était aussi là, il y a eu, je pense pas que les Congolais qui manquent aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps que nous avons eu l'ancien ministre de finances qui est reparti, qui était quand même dans ces organisations. Mais je pense que le problème n'est pas là-bas. Si c'est un ou deux individus, n'est pas le problème.
Tout à fait.
Mais le problème est que qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que pays, pour nous assurer? Est-ce que les gens, quand ils nous entendent, ils nous comprennent, est-ce qu'ils nous respectent, ils comprennent que nous sommes égaux? C'est ce parallélisme-là qui doit converger, que je pense que c'est important. Et je crois bien que c'est que le Congo a brillé avec tendance, il y a eu, à part ce que j'ai dit, il y a eu encore régulièrement un retour au passé, même des acquis déjà eu. Vous savez que nous avons eu en 96, les états généraux d'éducation nationale. Mais est-ce que les amis, ce qu'on a pensé là-bas, on les a mis? Je ne sais pas. Et vous savez que les Congos avaient la meilleure politique pour l'enseignement de la pédagogie, l'IPN. Nous avons brillé dans les arts, l'INA, et ainsi de suite. Alors, il y a un recul parce que je pense que nous n'avons pas encore mis un accent sur les réalités d'aujourd'hui et que les Congos arrivent à se retrouver avec ce qui est vraiment à l'ordre du jour. Donc je pense que nous avons un entêtement vers un système qui est obsolète et nous croyons que ça va marcher. Alors pour faire une fuite en avant, nous en jouons du nationalisme comme si avec l'éducation on peut croire qu'il y a du nationalisme alors que là-bas tout le monde devient, il y a une nationalité.
Voilà. Merci beaucoup professeur, nous vous gardons encore en ligne 0 80 1 890 73 15 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Le débat politique, c'est un dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15, ou par internet pa@radiocapi.net.
Alors nous avons Dr Richard en ligne. Vous êtes à Kinshasa, Dr Richard, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à l'invité aussi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix et bon anniversaire pour vos 13 ans.
Voilà, nous l'avons dit en début, la RDC est membre de plusieurs organisations régionales et internationales, mais elle est moins représentée ou même quasi inexistante au sein des administrations de ces structures. Alors, que faut-il faire pour encourager une forte représentation des Congolais à ces structures? D'abord, est-ce que vous pouvez nous déceler, selon vous, les causes, après avoir écouté notre invité qui a évoqué l'inadéquation de nos diplômes, ainsi que les filières qui sont proposées, qui sont anachroniques, qui seraient anachroniques?
Oui, je félicite monsieur le professeur qui est resté académique. Je vais donner mon témoignage parce que j'ai travaillé à l'Organisation mondiale de la santé de façon effective. Alors, pour moi, quelles sont les causes? Les causes, c'est d'abord ce n'est pas une matière enseignée dans nos universités, si je veux maintenant contredire le professeur. Ce n'est pas enseigné. Vous n'allez pas voir une vacance de poste dans X matière correspondant à la leçon du professeur qu'on est en train d'étayer, d'analyser dans un cours. Ça n'existe pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce n'est pas une culture du Congolais, du peuple Congolais. Quand vous dites aux Congolais, allez regarder les valves des Nations Unies à gauche, à droite, le Congolais ne regarde pas. Il préfère aller derrière un oncle, je ne sais pas qui, pour avoir du boulot. Troisièmement, ce n'est pas aussi une affaire de l'État. Ce n'est pas la culture de l'État. Moi, je suis allé travailler à l'Organisation mondiale de la santé
comme clandestin dans mon pays. Je suis sorti, et quand j'étais sorti, celui qui a succédé au secrétaire général qui était là, qui m'avait signé les papiers, a enlevé mon nom de la liste des agents de l'État. Il m'a déclaré déserteur. Comment un pays comme ça peut dire que sa population n'est pas représentée? C'est ça le grand problème. J'ai tout le temps que je suis allé travailler là-bas, à mon retour, j'ai trouvé un dossier de révocation, parce que j'étais déserteur. Et pourtant, j'étais sorti avec les papiers de l'État. Voyez un peu ça. Alors, il a fallu un homme, paix à son âme, le secrétaire général Feu Niakamia Milingue, qui m'a réhabilité. Et puis, j'étais à ma instance d'affectation pendant 7 ans. Est-ce que je devais supporter ça? Lorsque le monde avait besoin de moi. C'est ça le problème.
Alors, si je comprends bien, docteur Richard, pour vous, il y a l'absence totale de politique publique. La politique publique n'accompagne pas. Ou,
oui,
je l'ai dit, la volonté
je
politique.
Je vais ajouter ceci, J.S.
Oui.
Les amis burkinabés que j'ai vus là-bas, le fait de sortir, le fait de naviguer pays X, pays Y, et puis il rentre dans son pays, fait partie de ce qu'on appelle le plan de carrière.
Mmh.
Chez nous, le plan de carrière, c'est quoi? C'est ça le problème. Quand ils rentrent chez eux après un mandat, ils rentrent dans leur service d'origine. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, on vous jalouse de A à Z. Deuxièmement, les gens ne savent pas lire les vacances de poste. Ils ne savent même pas analyser ça. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est que, il y a M. Boulaboula, que je suis en train de saluer, le magistrat qui est allé au tribunal pénal international, était avec moi au Burundi. Ils ont nous apporté la même analyse. Aujourd'hui, j'apprends que l'État l'a soutenu. C'est à quel moment, après qu'il ait fait le Burundi, le Rwanda, le Burundi, et il ait fait aussi le Haïti, après combien de temps que l'État l'a soutenu? L'État l'ignorait.
Oui,
il rentrait dans des affaires, il rentrait, et on ne le connaissait pas.
Voilà, donc je comprends que vous parlez de la culture, les Congolais ne se donnent pas cette peine-là de pouvoir, donc vous contredisez sans notre invité, pour dire que c'est vrai, il y a quand même de valeurs dans notre pays, mais il faut que les gens cultivent cela, et avoir ces soucis, la volonté de pouvoir accéder à ces structures régionales et internationales, écarter tous les stéréotypes qu'on a, et également des affinités, compter sur des affinités parentales pour accéder à tel, à tel, à autre. Donc il faut vraiment de cela. Et vous, évoquez l'absence de politique publique qui n'accompagne pas, en fait, cette volonté des Congolais de vouloir représenter les pays, même dans les instances régionales ou internationales, dans les cadres de l'administration, comme on voit avec les Sénégalais, les Burkinabés et tant d'autres pays africains. Merci beaucoup, docteur Richard, d'avoir appelé. Pichu, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour, J.S.
Voilà, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Juste, moi, je trouve que c'est encourager cette participation du grand congolais dans le système international. Et la République démocratique du Congo, d'abord, doit revoir sa politique interne. Parce que vous remarquez que dans notre pays, tout est politique. Et on doit mettre la parole sur ce à la place de tout.
Voilà, voilà, on a des petits soucis avec la ligne des Pichou. On a l'impression qu'il doit se retrouver dans une maison. Voilà, il y a des petits problèmes. Est-ce qu'on peut revenir encore à Pichou ou peut-être prendre un autre auditeur? Voilà, on va encore essayer. Pichou?
Oui, alors je suis allé.
Voilà, allez-y. Je crois que c'est plus ou moins. Allez-y. Désolé, on ne pourra pas vous garder avec cette mauvaise qualité. On prend plutôt Franck. Vous êtes à Paris. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés.
Vous avez la parole, Franck.
Oui, mais merci, je vous en prie. Je n'ai pas suivi le début du débat. J'ai seulement vu le titre par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui a été soumis au débat. Je crois que ce n'est pas un problème si la RDC peut être membre certains organismes à caractère régional, à caractère international ou bien intercontinental. Mais tout ce qu'on demanderait à nos représentants, c'est de s'arranger pour toujours mieux faire entendre la voix de la RDC. Donc la RDC ne doit pas être membre de tel ou de tel autre organisme pour subir les décisions qui sont prises là-bas, mais c'est peut-être mieux, vu son poids géographique, vu son poids stratégique, vu son poids géologique, si elle est dans des organismes comme ça, qu'on tienne aussi un peu compte de ce qu'elle représente, quoi. Mais parfois, dans la plupart des cas, on constate avec regret que les autres ont parfois besoin de nous pour faire avancer leurs économies, pour faire avancer leur politique, pour atteindre des objectifs dont ils ont besoin, alors que la RDC elle-même, sur certains points, elle ne bénéficie pas, quoi. Puis, c'est peut-être mieux de bien calculer, de bien raisonner avant d'accepter des demandes d'offres. Sinon, vous êtes ici, vous êtes là-bas et vous faites subir, c'est un peu ça. Mais on doit reconnaître qu'aucun État ne peut se développer sans l'apport des autres. Donc, dans le contexte de la complémentarité que les États doivent se développer, on le reconnaît. Mais il faut aussi qu'on soit réaliste pour qu'on puisse pas seulement subir ce que les autres nous approchent, nous apportent comme suggestion.
Oui, Franck, je l'ai dit, tantôt, aujourd'hui, il y a les États qui ont compris les opportunités qu'offrent les organisations internationales pour s'affirmer sur la scène internationale. Et ils en ont fait d'ailleurs un enjeu diplomatique pour influencer dans la prise de décisions mondiales et affirmer également leur puissance. Alors ainsi, ils font la chasse des postes stratégiques au sein des organisations internationales et placent leurs ressortissants, peu importe les considérations politiques, encore moins tribales ou ethniques. Alors, mais aujourd'hui, ce n'est pas cette stratégie publique qu'anime au fait les communs des Congolais pour que finalement nous puissions aussi avoir un mot sur l'échiquier international. Est-ce que vous avez pratiquement décelé le même cause qu'ont évoqué par exemple vos prédécesseurs? Il y a l'invité qui a parlé de l'inadéquation de nos diplômes et les filières proposées aujourd'hui dans nos instituts supérieurs et universitaires qui font défaut. Il y a Richard qui parle de manque de politique publique. Alors vous avez quel point de vue par rapport à ces éléments?
Oui, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut encore évoquer. Il y a aussi le manque de patriotisme, le manque de décision. Il y a aussi le manque de clarté. Parce que par rapport à nous, par exemple, qui sommes à l'extérieur, il y en a qui ne savent pas que partout où nous nous trouvons, nous devons aussi militer pour plaider pour certaines causes nationales. Comment? Quand, par exemple, je suis avec les citoyens allemands ou autrichiens, je dois tout faire pour défendre l'image de mon pays. Je dois tout faire pour donner une image
par rapport à... Oui, Franck, s'il vous plaît. Parce que restons dans l'administration de ces structures régionales et internationales. Nous parlons de l'administration.
Ouais.
Donc, comment accéder dans l'administration de ces structures-là?
Comment procéder au niveau de l'administration? Je suis là à côté d'une salle, il y a beaucoup de bruit, je n'entends pas bien.
Voilà, on pourrait vous récupérer très prochainement. Gabriel, vous êtes à Kikwite, bonjour. Gabriel, vous êtes avec nous à Kikwite.
Oui, bonjour, monsieur.
Pierre, d'éteindre un tout petit peu votre poste récepteur, ou carrément vous éloigner de ce poste, comme ça on pourrait s'écouter par téléphone.
Ok, merci beaucoup, je me suis écarté.
Oui, allez-y maintenant.
Oui, je voulais dire la problématique de la présence de ressortissants congolais dans les institutions internationales ne pas seulement dit au fait des diplômes comment a avancé, l'adéquation des diplômes comment a avancé le professeur. C'est vrai, peut-être c'est un élément aujourd'hui, mais hier, les licences que nous avons ici, il y en avait en Belgique, en France. Les systèmes que nous avons d'enseignement supérieur universitaire, c'est contrôlé par l'UNESCO. Mais la présence, pour moi, n'est pas due à l'adéquation du diplôme, mais c'est dû plutôt à d'autres facteurs, par exemple, la force du gouvernement, de dirigeants, la diplomatie. C'est là où on doit mettre l'accent, il faut avoir une diplomatie très forte. pour accéder à ces organismes-là. C'est, il y a toute une politique des relations internationales qui joue là. Je vois, par exemple, notre pays, depuis de 96, je dirais, jusqu'à ces jours, le pays est presque en état de guerre, de conflits armés. Le mode de gestion à l'interne n'inspire pas confiance aussi aux institutions internationales qui voient et qui suivent et le gouvernement, nos dirigeants, sont presque... bon, ils concentrent les efforts qu'à l'interne qu'à l'extérieur. Donc pour moi, d'abord, le premier élément, c'est une diplomatie très forte qu'on doit amener. Parce que, je me rappelle, un exemple, j'étais à Strasbourg, en France, en formation en droits humains, et là, il y a un professeur qui, on parlait, le thème était la protection internationale de la femme. Mmh. Et lorsque, dans les enseignements qui venaient, lorsqu'on parlait de l'Afrique, alors il dira que le problème du poids des décisions sur le plan international relève d'abord de trois facteurs. La force diplomatique, la force économique et financière et la force la force de armée dans un pays. Donc ces trois facteurs jouent sur le plan international. Or que nous, presque toutes ces trois forces, nous sommes entièrement faibles aujourd'hui. Alors, nous ne nous faisons pas confiance et la diplomatie qui est menée dans notre coopération et de temps à autre aussi, c'est une diplomatie sélective. Et on peut introduire telle candidature, on préfère prendre telle autre. Et pas sur des bases objectives, mais sur des bases subjectives. Parce que telle est liée à telle est ceci. Ça aussi, ça joue. Voilà un peu ce que je voulais un peu intervenir sur ce secteur-là.
Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir évoqué l'aspect diplomatie qui constitue un élément clé, selon vous. Quand elle est absente, c'est vrai qu'on n'a pas une forte représentation dans ces structures régionales ou encore internationales. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quasiment... on connaît quasiment l'absence de ressortissants congolais dans toutes ces structures. Voilà, donc là, pour appuyer d'ailleurs votre pensée, quand vous avez évoqué la diplomatie, disons les trois facteurs sur lesquels repose pratiquement cette forte représentation, la force de la diplomatie, la force économico-financière et la police, et dans ses mémoires, en fait, des guerres, le général d'ailleurs de Gaulle disait qu'il y a trois leviers qui commandent la politique étrangère, donc la diplomatie qui l'exprime, l'armée qui la soutient et la police qui la couvre. Merci beaucoup. Maître Sauville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Un bon anniversaire pour les 13 ans que vous venez d'accomplir.
Merci. Maître Sauville, vous avez la parole.
Oui, je me rallie à monsieur Gabriel. Il faudrait qu'il y ait une diplomatie agissante, une forte diplomatie par rapport aux affaires extérieures. Puisque monsieur JR, vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas une semaine, deux semaines, que le président de la République a convoqué les ambassadeurs, tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne relation entre la communauté internationale et notre pays. Et comment voulez-vous qu'on puisse privilégier les Congolais pour se retrouver dans les institutions internationales? Nous voyons les Canadiens. Ils sont appelés. Les anciens dirigeants des pays, les anciens présidents, sont appelés même à diriger des grands organismes. Mais aujourd'hui, c'est nous au Congo. D'abord, la démocratie. Et parfois, toutes les normes exigées, tous les préalables posés par la communauté internationale pour que les Congolais se retrouvent au niveau des institutions internationales sont bafoués. Et comment est-ce que nous pouvons nous y retrouver? À titre exemplatif, nous avons vu avec le problème de la francophonie. Il y a eu un opposant qui avait postulé pour qu'il soit voté. Il n'a jamais été appuyé. C'est-à-dire qu'on incorpore même la politique en ce qui concerne les institutions internationales. Ça ne peut pas résoudre le problème. Or, le Congo a une crème intellectuelle très, 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 très grave. Le Congo ne peut pas manquer de représentants de l'institution internationale. Comme vous l'avez dit, comme l'invité l'a dit, à son temps-là, on avait les Gérard Kamanda. Si aujourd'hui nous le trouvons en Afrique du Sud, les grands médecins, en Zambie, les grands médecins, ce sont des Congolais. Comment est-ce que ces Congolais-là ne se retrouvent pas? parce qu'il y a une discrimination au sein, au niveau de la politique internationale. Toutes les tenues n'avaient pas de notre obédience, ils ne vont pas les soutenir. Or, avec une diplomatie agissante, nous, les Congolais, peuvent se retrouver à n'importe quel niveau, et au niveau africain, et au niveau international, et au niveau mondial. Parce que les cerveaux, nous les avons, le CJR, nous avons les cerveaux, même au niveau même du barreau international, même au niveau, à tout ce soit quel organisme, au niveau du ministère, nous manquons de représentants. C'est-à-dire que c'est une remise en question, et c'est un signal fort servi au gouvernement et aux gouvernants de changer leur manière d'agir. D'agir en fait que la population des Congolais peut se retrouver parce que le Congo a une dimension d'un continent. Vous ne pouvez pas comprendre ce JS avec une population de 70 millions d'habitants et que le Congo ne se retrouve nulle part. Parce que c'est un échec sur le plan international. C'est un échec sur le plan international.
Merci.
Or, aujourd'hui, nous tendons vers une élection. Si le président aujourd'hui acceptait de ne pas poser sa candidature, il peut être utilisé. Il peut être utilisé dans l'organisme international. C'est, d'ailleurs, je peux même évoquer même le cas de Blaise Compaoré. On l'avait aussi conseillé pour qu'il puisse déposer et qu'il serait utilisé dans l'organisme international. C'est-à-dire le problème des dictatures, de la dictature, des problèmes de voir s'imposer, c'est ça qui te préjudicie les Congolais que nous sommes. Vous, JM, vous êtes plus que même un journaliste de France internationale. Les émissions que vous présentez. Et aujourd'hui, si aujourd'hui, par exemple, le CJR, que Radio Capi n'est plus, où est-ce que nous aurons à manifester nos raisonnements? Où est-ce que nous aurons à
voilà. Malheureusement, on n'est pas des devins pour savoir qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais tout de même, on sait que les savoirs, quand on l'a, en tout cas, c'est pour d'une manière durable et aussi ça reste toute la vie. Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir appelé de Lumbashi et surtout d'avoir apporté cette contribution dans ces débats citoyens. Maître Joël, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Merci, JR, à vous aussi. Bonjour.
Vous avez la parole après avoir écouté vos prédécesseurs.
Disons, JR, c'est d'abord le problème du poids. La RDC, en tant qu'acteur de la vie internationale, ne pèse pas. Et sur ce point-là, n'attendez pas à voir la RDC placer ses ressortissants au poste stratégique dans la fonction publique internationale.
Maître Joël, si nous faisons un recul vers les années 70, la RDC par rapport à l'Afrique du Sud, c'est vrai que cette histoire est transmise de génération en génération. Nous avons sur le plan économique des éléments plus importants que ont pesé en fait, puisque l'Afrique du Sud, sur le plan politique, je crois que tous les regards de la communauté internationale étaient tournés vers l'Afrique, et il y a même des citations ou encore des observateurs de cette époque-là qui ont évoqué que l'Afrique est en forme de revolver dont la gadget se trouve au Congo. Donc pour dire que tout peut aller, tout peut se faire, et aussi donner du tempo pour le développement de l'Afrique. Mais comment les choses ont envie de changer donc, par le cours des années?
Vous savez, il arrive des fois, vous savez, par rapport à l'histoire, on nous dit qu'il y a eu des moments où la RDC était performante sur le plan diplomatique, comme vous l'avez fait allusion, sur le plan économique. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on avait pu. Ce n'est pas seulement ça qui compte. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a certains pays africains qui, bien que pauvres, mais on voit quand même des ressortissants là-bas. D'abord, les critères qui consistent, ce qui fait que ces pays-là puissent être aujourd'hui priorisés, c'est parce qu'ils sont, par exemple, ils sont peut-être les enfants dociles, les enfants dociles des puissants, qui ont la probabilité de pouvoir engager les ressortissants africains là-bas, mais aussi que les critères de compétences et de qualité voulues. Parce qu'il y a aussi des critères, nous ne pouvons pas toujours nous focaliser sur les aspects politiques. Vous savez qu'il y a des critères qu'on demande actuellement pour assumer des fonctions publiques au niveau international. Nous, notre État fait partie de plusieurs organisations. Je ne pouvais citer ici que, par exemple, l'ONU, il y a l'Organisation de l'Union africaine, il y a l'OADA, il y a les Grands Lacs, il y a plusieurs organisations que nous sommes membres, mais vous ne nous verrez jamais
assumer
des fonctions là-bas. C'est par rapport aux qualités. Les qualités, que, vous savez, dans nos universités, par exemple, la faculté de droit que moi j'ai fréquentée. Allô?
Allez-y, Maître Joël.
Voilà, la faculté de droit que j'ai fréquentée, il y a un problème d'orientation. Moi, depuis lors, je m'intéressais déjà à connaître la vie internationale. Les gens se limitent à voir les choses sur le plan national, sur le plan local. Mais le national ne peut pas vivre sans l'international. Nous, on lisait beaucoup d'ouvrages, on avait déjà une idée sur la vie internationale, les acteurs, les fonctionnements de la vie, et comment les choses se passent dans ce sens-là. Et lorsqu'on lance un offre dans ce sens-là, qu'il y a des gens qui ont des compétences voulues, on peut les voir là-bas. Mais ce n'est pas seulement dans les postes stratégiques, parce que l'administration publique internationale, il y a plusieurs postes là-bas que les gens peuvent pourvoir. Je ne sais pas si vous faites seulement allusion aux postes stratégiques qui sont je ne sais pas, mais vous faites c'est dans l'administration d'une manière générale. Par exemple, de l'OADA, il y a plusieurs postes à pourvoir là-bas. Et dans la Cour commune, à l'ONU, là-bas, il y a plusieurs postes, il y a plusieurs commissions qu'on crée là-bas, qu'on pouvait trouver les Congolais, à mon avis, même pas ceux qui sont sortis de la RDC, mais ceux qui sont à l'étranger, s'ils ont un œil international, on pouvait trouver les compétences voulues. Mais je vais demander à notre État de pouvoir... Vous savez, notre État ne contribue pas. Hein? Il ne contribue pas financièrement. Il est comme un enfant qui est un observateur. On peut, normalement, il a un statut de bien observateur. Mais on sait voir quand même. Le président a été nommé le président de plusieurs organisations. Rwanda qui est en fonction, là, ça c'est aussi quelque chose à soulever. Bien que les Rwandais sont allés au Conseil de sécurité, ça c'est plus haut, mais nous sommes au niveau même pas de la région de l'Afrique, mais de la sous-région. Faut quand même, je vois au niveau du Grand Lac, il y a aussi un Congolais qui est là-bas dans un poste, mais ça ne profite pas, ça ne profite pas aux Congolais, étant donné que. Nous, on nous considère, mais je vois qu'il y a des
voilà, maître Joël, merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Joël.
Je dois normalement attirer l'attention de ces gens-là pour connaître que les Congolais, maintenant, doivent s'orienter à connaître ce qui se passe sur les plans internationaux. Et non, c'est limité aux informations seulement que nous écoutons aux radios, passer par là.
081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Au Capidance, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit, et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capidance New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais, ici et d'ailleurs.
Parole aux auditeurs.
Voilà, professeur Stéphane Ndida, vous êtes avec nous.
Oui, oui, oui.
Voilà, comment vous réagissez par rapport aux interventions des uns et des autres?
Je suis content dès qu'on donne les Congolais la chance de parler et en toute liberté. On sent qu'il y a complémentarité. Mais j'ai résumé trois ou quatre choses. Votre question est pertinente. Vous dites là où la méritocratie va jouer son rôle. Il n'y a pas de considération politique, etc. Pourquoi les Congolais ne sont pas là? Et le dernier intervenant a parlé des critères. Et je suis content. Et le premier intervenant a parlé des problèmes de ces politiques, des clientélismes, tout ça. Eh bien, je pense que ça, c'est parti du tout. Mais rentrons à l'essentiel. Pour être admis dans ces organismes internationaux, prenons la BAD, Banque africaine de développement. On va demander, parlons des critères. Ils vont demander les diplômes, l'expérience qu'on a déjà eue, et avoir certainement un soutien. Mais là où les clientélismes, les tribalismes, les clanismes, l'ethno-politique existent, si quelqu'un n'est pas de mon clan, la chance que je lui donne l'opportunité d'avoir l'expérience bancaire ne sera pas là. Donc, malgré sa formation qu'il peut avoir dans ces grands pays où les autres sont partis, mais quand il va chez lui, s'il n'est pas dans les clans, il n'est pas dans la tribu, il n'est pas dans les rythmes, eh bien, il ne sera pas là. Là, c'est un des problèmes sérieux pour la République que nous n'avons pas à comprendre que toutes les forces sont utiles, même celles qui sont un peu discordantes, pour permettre qu'il y ait au moins deux sons de cloche. Mais j'ai encore entendu l'autre dire que voilà, président du diplôme. Oui, mais soyons quand même réalistes. Il regarde les offres d'emploi de ces organismes internationaux. Il demande quoi? Quels sont les critères pour être admis, pour avoir seulement à déposer son dossier? Donc, il faut que la RDC ne navigue pas un navire ivre. Le monde aujourd'hui est en train de comprendre les diplômes, les critères pour être dans ces positions au niveau du middle management, c'est les masters. Il est temps que nos jeunes gens, autrement compétents et capables, aient l'opportunité de ne pas avoir l'handicap d'un diplôme qui n'est pas reconnu. Parce qu'il faut être incompris. Quand lui n'est pas compris, il va expliquer moi j'ai un DS, alors qu'on lui demande un master, j'ai l'équivalent, voilà qui s'accomplit les choses. Qu'est-ce que ça nous coûte pour remettre les Congolais sur le même, sur les rails, et dire que voilà, nous avons les masters. Et deuxièmement, il faut être connu. Mais on est connu comment? C'est quand on assume des responsabilités par rapport à sa formation, et cela sans tenir compte de son clan, de sa famille, de ses connexions, et ainsi de suite. Alors, voir la méritocratie. Troisièmement, il faut être compétent. Mais la compétence, on va demander, qui a déjà fait quelle expérience, moi je vois 5 ans d'expérience et de suite, à base de quoi qui a assumé ces fonctions-là. Donc, quand nous mettons des gens à des postes de responsabilité, si les Congo veut se voir avancer encore très loin, il faut que nous soyons quand même aussi considérant que nous fermons parfois les yeux aux trivial autre chose, aux avantages politiques immédiats, mais regardez les compétences. Qu'est-ce que nous plaçons à quel poste? Les gens ont regardé là-dessus. Et finalement, oui, c'est la diplomatie. Il faut être dans un réseau. Pour être dans un réseau-là, on exige aussi l'anglais. Alors, je pense que l'usage de l'anglais dans nos universités doit être une exigence, pas seulement de la part d'un texte qui vient de l'État, par d'une pratique réelle que les étudiants soient capables de lire et de s'exprimer en anglais, parce que le monde des affaires aujourd'hui se fait en anglais. Encore, allez-y, la personne qui a fait les droits, qui disait, écoutez, quand on parle là-bas, lui, vous voulez l'orientation, ce qui est vrai. Et est-ce que nous avons, là, on donne les droits des affaires? Bien sûr. Est-ce que nous avons, parlons des magistrats, et nous sommes parmi les rares pays de la sous-région qui a une école de la magistrature? Non, on ne devient pas magistrat parce qu'on a fait les droits, mais il y a toute une école de la magistrature qu'on va suivre là-bas. Et il est temps que nous puissions réformer ça. Ça nous donnera d'abord une certaine compréhension, les gens vont nous comprendre, et nous serons connus, et la compétence de cela est très connectée. Donc, je pense que les uns les autres ont alimenté la question qui est posée pertinente. Hormis les autres critères que nous avons eus pour avancer chez nous au Congo, et quels sont, pourquoi les Congolais ne sont pas là où ils doivent être quand c'est seulement la méritocratie qu'on exige? Donc, nous devons respecter les normes internationales et les processus et la procédure. Et on ne doit pas naviguer à vue. Et je pense qu'il est temps que nous puissions aller clairement à la réforme réelle de notre système éducatif, de l'école primaire à l'université, qui ne répond plus aux conditions et aux normes actuelles. J'ai continué à insister que j'ai la peur que notre pays, qui se veut un pays émergent à l'horizon 2030, continue à utiliser les systèmes obsolètes de 1950. Oui, il y avait un temps où nos diplômes étaient tellement valables, et il y en a encore, ces mêmes gens sont encore là, ils sont partout, les Congolais sont intelligents. Ce n'est pas là les problèmes. Le problème du Congolais n'est pas l'intelligence, ça il en a. Mais le problème du Congolais, c'est avoir accès au système. Et pour avoir là-bas, il faut qu'il y ait l'information correcte et qu'il soit là-bas connecté correctement. Donc, je pense que nous ne devons pas avoir peur de dire les problèmes comme il se doit. Nous devons réformer pas par verbe, mais correctement notre système éducatif. Il ne répond plus aux normes internationales. Et ce qu'on demande à l'économie actuelle du XXIe siècle, l'économie du marché, non, ce n'est pas ce que nous donnons à nos enfants. Et il est temps que nous le fassions. Et on doit arriver à dépolitiser l'éducation.
Voilà, professeur, nous vous gardons toujours en ligne. Il est temps d'écouter également des autres auditeurs. Il y a Dr Mbakata, qui est à Kinshasa et Darius Mbujimayi. Dr Mbakata, bonjour.
Oh, bonjour.
Alors, vous avez suivi notre invité ainsi que vos prédécesseurs. Quel est votre point de vue par rapport à cette thématique?
Bien, merci. Je remercie tous les intervenants. Mais avant toute chose, j'aimerais m'inscrire en fond. Sur le fait que les professeurs disent que c'est le diplôme, un diplôme de nos compatriotes, nos diplômes qui ne sont pas compétitifs vis-à-vis des autres cadres d'autres pays. Moi, je crois que nous avons des barrières qui nous empêchent d'être compétitifs vis-à-vis des candidats d'autres pays. L'une de ces barrières, c'est le fait que nous ne contribuons pas efficacement dans les cotisations de ces institutions. J'étais pendant 5 ans conseiller principal à la primature. Nous avons accompagné plusieurs ministres dans certaines réunions de ces organismes internationaux, mais nous n'étions là que des observateurs. Mmh. On ne donnait même pas la parole parce que nous n'étions pas en règle de cotisation. Comment voulez-vous que vous n'êtes pas en règle de cotisation quand on recrute des gens pour représenter les pays ou pour siéger au sein de ces institutions qu'on puisse porter à vous? Dieu merci, avec le gouvernement actuel, nous avons réglé ce problème pour la plupart des institutions. Ça, donc, c'est la première barrière pour moi. La seconde barrière, c'est la langue. Le fait que nous ne soyons que des francophones et que l'anglais ne soit pas très poussé chez nous, c'est une grande barrière pour nous. Parce que dans la plupart de ces institutions, la langue des travailleurs c'est l'anglais. Et comment voulez-vous, un Congolais qui ne parle que français, il écoute à peine l'anglais, s'il participe, si on demande qu'il soit représenté dans l'organe directionnel de ces institutions, mais il ne va pas être représenté. Il est de complexe, il ne parle pas bien anglais. Voilà donc une seconde barrière. La troisième barrière, je pense qu'il faut d'abord distinguer. Il y a des postes pour lesquels les gens lisent des appels d'offres internationaux et répondent eux-mêmes directement. Pour cela, peut-être de notre faute, on ne suit pas très bien, on a peur, comme j'ai dit, l'anglais, on ne maîtrise pas. Mais il y a d'autres postes à représentation. On demande au pays de donner des candidats. Et dans cette deuxième hypothèse, est-ce que nos gouvernants donnent des candidats par exemple? Ou on se limite à voir quel est son cousin, quel est son oncle, quel est son neveu qui vient de terminer l'université, malgré le fait qu'il a un diplôme valable, il n'a pas d'expérience, et quand vous présentez des candidats pareils, ils ne font pas les points. Donc voilà les trois barrières pour moi qui font que nous ne soyons pas très représentatifs. Donc, je m'arrête là, sinon,
Merci
pour ce sujet.
Oui, docteur Mbakata, parce que vous avez quand même trouvé l'intérêt à ce sujet, on a quand même quelques inquiétudes. Maintenant que nous, nous sommes absents, c'est vrai, est-ce que nous ne saisissons pas les opportunités que offrent ces organisations, bien entendu, avec les différents facteurs que vous venez d'évoquer, est-ce que nous serons, dans les jours à venir, capables de comprendre les enjeux, par exemple, diplomatiques qui pourraient influencer dans la prise de décision mondiale? Parce que le fait d'être absent, d'aucuns pensent que voilà, nous ne serons pas dans la prise de décision dans la prise de certaines décisions. Nous serons
quand même... Moi, je ne suis pas très pessimiste. Il faut distinguer les organisations à caractère politique. Dans celle-là, peut-être que nous n'en sommes pas encore très bien représentait le contenu de la barrière que je viens d'évoquer ici. Mais il y a des institutions à caractère, par exemple, humanitaire, compte tenu de la crise humanitaire que nous avons eu dans notre pays. Il y a beaucoup de Congolais qui se retrouvent dans des organisations internationales à caractère humanitaire. UNICEF, HCR, PNUD et tout. Quand vous allez dans d'autres pays africains, vous trouvez beaucoup de Congolais. Comment ces Congolais se retrouvent là? C'est parce que compte tenu de la grande crise humanitaire que nous avons eu ici, nos compatriotes ont mis à travailler à l'intérieur dans ces organisations. Ils se sont distingués et à partir d'ici, ils sont partis à l'extérieur du pays. Là, nous sommes hyper même représentés. On ne doit pas être très pessimiste. Dans aux organisations à caractère politique. Mais nous devons être des membres. Si on dit que le Congo demande au pays de présenter des candidats valables, mais qu'on choisisse des candidats qui sont réellement valables et qui ont de l'expérience, qu'on ne regarde pas son neveu, qu'on regarde pas son frère. Et si nous pouvons facilement remonter la situation, que maintenant je l'ai bien dit, nous sommes pratiquement en règle avec les paiements de cotisations dans la plupart des institutions, c'est un gouvernement de réclamer. Parce que quand nous étions absents, il y a des petits qui nous ont représentés. Quand vous allez quelque part dans certaines institutions, vous voyez les postes qui sont destinés aux Congolais, mais c'est un Rwandais qui l'occupe, c'est un Burundais qui l'occupe. Maintenant que nous sommes en règle, nous n'avons qu'à faire l'inventaire de cette situation et réclamer les postes qui doit nous revenir. Ainsi, nous pouvons mettre de l'ordre. Donc, on va faire un pessimiste. C'est question de nous organiser à l'interne et nous serons bien représentés.
Docteur Mbakata, merci beaucoup d'avoir appelé et surtout d'avoir contribué à ce débat citoyen. Darius, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Merci, monsieur le journaliste.
Darius, vous avez la parole.
Je pense que les gens qui m'ont procédé ont raison, surtout ceux qui ont dit que c'est un problème de diplomatie. Je serais aussi d'accord avec le professeur qui vient de précéder. On dirait qu'il y a un problème aussi de contribution. Vous allez vous rappeler que le fait d'être implanté dans les organisations internationales, c'est un problème des relations internationales. Or, les relations internationales sont des relations de puissance et d'intérêt. Nous sommes dans ces organisations-là sans ambition. Notre pays est membre d'à peu près 80% de toutes les organisations régionales et aussi internationales. À combien l'ADC contribue dans ces organisations-là, sur les plans financiers? Et pour quelle ambition notre pays est allé dans ces organisations-là? Nous sommes allés là comme des moutons d'épanouches. On n'a pas une ambition claire et précise. Ce qui fait qu'on est là, on ne sait même pas respecter les accords, les traités que nous-mêmes on a signés. C'est pour laquelle on ne s'est pas considéré. Comment vous voulez être représenté là-bas, avoir des représentants dans ces organisations, quand vous ne contribuez pas, et sur les plans financiers, et même sur les plans des traités que vous avez signés?
Merci beaucoup, Darius. Professeur Stéphane Zita.
Oui, merci. Je suis content de voir la contribution des uns et des autres, et Dr. Bagatelli est allé en passant aussi. Et nous sommes là, nous autres, à Kinshasa, il y a 23 ans. Et dans chacun des organismes internationaux ici à Kinshasa, nous avons au moins un ancien étudiant qui est là. Je voudrais réintégrer ce qui est dit. Nous devons être en musique avec ce que le monde reconnaît. Et quand on fait des offres d'emploi, il y a des critères. Ces critères-là, ce ne sont pas des syllogismes, ce ne sont pas des cris de nationalisme, ce sont des critères qui sont basés sur des faits concrets. Le Congo n'a pas d'autre choix que d'aller avec les restes du monde et réformer le plus tôt possible son système éducatif, c'est sur quoi il était le premier à les commencer avec le Code de la Santé avant l'Europe, l'Union européenne. Donc, ce n'est pas approprié que nous puissions croire que ce sont les contributions, les codes de ce qu'on ne fait pas. Je parle de l'air présent de ces organismes-là qui récritent aujourd'hui même. Ils peuvent regarder dans les organismes d'Assemblée, la Banque mondiale, qu'est-ce qu'ils demandent? Prenons, ils demandent qui a fait les finances. OK. Qu'est-ce qu'il a fait sur les marchés, comment mettre les bourses?
des bourses de valeurs. Ce sont des choses là que les autres sont en train de faire que nous ne faisons pas. Est-ce que nos enfants qui font l'économie comprennent que l'économie, je ne parle pas le business, c'est l'économie du marché. Est-ce que nos enfants comprennent l'entrepreneuriat, et ainsi de suite. Nous devons être avec les autres et comprendre ce que le monde fait. Et je pense que c'est là où nos enfants ont besoin de comprendre que le MBA, Master Business Management, c'est le diplôme le plus élémentaire pour gérer une entreprise. Donc, si vous avez géré une compagnie, c'est aussi grand que ça va devenir, tel que chez nous, il y a beaucoup de grandes compagnies, mais vous n'avez pas le diplôme requis. Quand vous allez chercher des compétences, on va voir vos années là-bas, on demande votre diplôme. Vous n'avez pas ça. Bien que vous ayez fait le travail, on comprend que ce n'est pas la méritocratie. Donc, votre question est pertinente. Si c'est la méritocratie, qu'est-ce qu'il faut? Alors, je voudrais résumer. Il faut qu'en fait, nous arrivions à aller avec les diplômes, l'expérience, la langue, l'informatique et avoir la nomenclature qui est compatible aux autres. Le Congo n'est pas une île à soi-même. Je pense que c'est important. Et nos étudiants qui ont terminé ici, il y a un qui était Serge Bango, qui était tout récemment à la Cité du Sud comme observateur des élections là-bas. Il est aussi professeur et accepté. Donc, il y a un moment où les Congolais sont repérés. Mais j'ai dit qu'il faut qu'il y ait des repères là. C'est important. Nous ne pouvons pas satisfaire cette jeunesse qui va diriger les Congo en 2030 et de croire que nous pouvons lui donner les habits de 1950 pour aller défendre le Congo de 2030. Non, il faut que nous revenions à la réalité et comme on dit chez nous, allons à cet esprit de la modernité.
Voilà, nous revenons dans ce studio. Nous allons accorder la parole d'un moment à l'autre à Joséphine qui est à Boston aux États-Unis et à Simon à Matadi dans le Bas-Congo. Nous lisons d'abord quelques messages qui nous sont parvenus. Il y a John Odian de Butembo qui dit ceci. À mon avis, pour que la RDC puisse être représentée au sein des différents organismes nationaux ou internationaux, il va falloir commencer à s'organiser au niveau interne, promouvoir les droits et libertés de l'homme, sauvegarder l'intégrité du territoire national en nettoyant les infiltrés au sein des armées, promouvoir la justice en respectant la loi de notre pays, promouvoir l'égalité homme-femme au sein des différents partis politiques. Si tous ces critères sont respectés par notre pays, soyons-en sûrs que la RDC sera respectée et représentée au sein des différents organismes internationaux. Voilà, il y a Bénédiction Migo de Bukavu. J'ai l'impression que la RDC s'emballe dans des organisations internationales sans pour autant intérioriser objectivement les finalités de ces organisations. Mais cela s'explique aussi par le fait que notre pays s'engage main vide et la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit, dit-on. Joséphine, vous êtes à Boston, aux États-Unis. Bonjour, Joséphine.
Ah, bonjour Radio Capi. Mais le Congo est en train de rater des rendez-vous. C'est là où on prend les décisions. C'est comme le dernier message que vous venez de dire. Le Congolais est en train de se mettre dans des organisations mondiales. Mais c'est pour faire quoi? Dans des organisations mondiales, ce n'est pas là qu'on prend des décisions. Le Congolais doit focaliser dans des organisations mondiales politiques, là où on prend des décisions mondiales. Quand on parle de la politique internationale, on doit faire allusion à l'être humain, le social et la politique. L'être humain, c'est quoi? Je vais prendre le temps de Mobutu. Mobutu a envoyé le Congolais aller étudier à l'extérieur pour remettre les cerveaux rentrés à l'intérieur. Mais avec le pouvoir qui sont venus après Mobutu, on a fermé les portes aux Congolais qui sont partis étudier. Je vous informe que il y a au moins 4 à 5 millions de Congolais à l'extérieur du Congo qui ont l'intelligence, qui ont tous les diplômes dont on est en train de parler. Mais on a fermé la porte. Mais monsieur Gér, vous serez étonné de savoir que il y a des Congolais qui sont en train de participer même sur place dans des politiques. Il y a des Congolais qui sont maires des villes, comme ici aux États-Unis. Mais quand on cherche à rentrer, on nous ferme la porte.
Mmh.
À l'intérieur, à l'intérieur, dans les universités, il manque le plan pour mettre le Congo sur
la
capacité comme toutes les autres
universités. Oui.
On a fermé la porte aux Congolais. Le monsieur, l'auditeur l'a dit, le Congolais qui est à l'étranger, mais quand il rentre, il se sent dépaysé. Pourquoi? Il n'y a pas la politique sociale pour recevoir le Congolais qui est venu, qui est allé se former ailleurs pour rentrer au Congo, montrer aux autres. Moi, je veux vous informer que vous dites que le Congolais n'est pas représenté. Bien sûr, le Congolais n'est pas dans la politique extérieure. Mais nous voyons, le monsieur vient de le dire, nous voyons, il y a maintenant un système, les Burundais, les Rwandais sont en train de représenter les Congolais. Mais ils sont Burundais, ils sont Congolais, ils sont Burundais, ils sont Rwandais, oui. Avec de passeports congolais. Ils sont dans toutes les universités ici. Moi, je me demande ce qu'est politique. Pourquoi vous fermez la porte aux Congolais qui sont partis? Or, c'était dans le temps de Mobutu. Mobutu a investi dans le Congolais pour aller étudier à l'extérieur. Quand ils ont terminé leurs études, quand ils veulent rentrer, ils trouvent un autre gouvernement et on ne veut pas leur ouvrir la porte.
Mmh.
C'est ça le problème.
Mmh. Donc,
au moment où, à l'intérieur du Congo, on a parlé de le problème d'anglais dans les universités. À l'école primaire, j'avais parlé au ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Il faut introduire l'anglais au niveau de l'école primaire et secondaire. Oui. Ouvrir la porte aux Congolais qu'on avait investi pour aller chercher la technologie, la politique dehors. Vous devez avoir la politique de les recevoir. Il ne faut pas fermer la porte aux Congolais qui sont allés étudier ailleurs.
Merci.
Il y
beaucoup.
En a 5 millions.
Merci beaucoup, Madame Joséphine, d'avoir appelé de Boston. On va prendre Simon Siloulou, qui est à Matadi. Bonjour, Simon.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Simon Siloulou, coordinateur adjoint de la nouvelle société civile. Les problèmes comme tel pour notre pays, la non-éligibilité actuelle des Congolais au superstructure international se situe seulement à deux niveaux. D'abord, ces superstructures sont regardent toutes les nations et tous les gens qui composent ces nations par rapport à leurs systèmes locaux mis en place, comment ils gèrent, comment ils gouvernent, comment ils font des choses. Pour nous ici, quel est le cursus d'un Congolais lorsqu'il exerce chez lui dans des structures qui existent politiques, apolitiques, ainsi de suite? Alors, quelle peut être la réaction des Congolais face aux activités démocratiques aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment dire que ces perspectives peuvent vraiment trouver de la raison des manières dont nous-mêmes Congolais aujourd'hui nous nous gérons nous-mêmes? Lorsque, mon cher, nous nous retrouvons face à une opposition où les gens font des va-et-vient, comme on le dit à Lingala, il est une bonne à savon. Il va de gauche, demain il va de droite. Mais comment on peut faire confiance à de tels hommes? J'espère, structure, attention, lorsque vous y êtes, vous engagez tous les pays du monde. C'est le pays qui s'oppose au système libéral et consort. Vous devez les gérer. Et vous, dans votre pays, quel est le niveau de l'exécution des mouvements démocratiques? Mais regardez les locataires du pouvoir public actuel. Lorsqu'ils privent à leur bailleur l'Internet, le Facebook et d'autres réseaux, ces perspectives regardent comment nous-mêmes nous progressons ou nous reculons. Ils sont en train de voir.
Voilà. Simon Siloulou, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour encourager une forte représentation des Congolais aux organismes internationaux?
Voilà, ce qu'il faudra faire aujourd'hui. Nous devons changer notre comportement. Et surtout que nous sommes dans une période électorale où tous les projecteurs du monde sont aussi en train de regarder le comportement des Congolais. Nous devons développer des comportements dignes. pour qu'après 2016, parce que c'est le dernier mandat pour le président de la République, et que les choses se passent d'une manière pacifique, d'une manière honorifique, notre président servira d'un cas d'école à tous ces pays du monde. Et une fois, il pouvait être pris pour résoudre des conflits relatifs des domaines là où lui a excellé. C'est comme ça, vous avez vu les Mandela, Abdou Diouf et tous ces gens-là, les meilleurs.
Voilà, merci beaucoup. On va terminer, Simon, avec Maître Paulin, qui est à Kananga. Maître Paulin, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs, parce que je suis le dernier d'ailleurs.
Vous n'avez qu'une minute.
Oui, j'allais dire sincèrement mon propos sans objet, dans la mesure où mes prédécesseurs m'ont déjà ramassé à un grand pourcentage de mon intervention, mais sinon j'ajouterai un regret, hein, un regret par rapport à ce qui n'était pas soulevé par tous mes prédécesseurs, parce qu'ils ont parlé du renforcement de la diplomatie. Et moi, je me poserai la question, où se trouve aujourd'hui le bourse d'études de la part du gouvernement? Il y a une mauvaise politique interne. Voilà tout, et comme je venais de
merci
le dire, on m'a déjà ramassé hier, merci beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir laissé aussi ce temps pour conclure avec notre invité, professeur Stéphane Nzita, vous êtes avec nous?
Oui, merci.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que faut-il faire pour encourager une forte représentation des Congolais? Est-ce qu'on va rejoindre l'idée du docteur Mbakata qui parlait de renforcement, de repenser un peu comment redonner encore la formation en langue aux Congolais pour sortir un peu de français et aussi renforcer l'anglais et la cotisation dans les différentes structures disons différentes organisations régionales et internationales dont là où nous sommes membres, et puis demander à ce que qu'on puisse un peu repenser la politique publique pour encourager les Congolais. Que dites-vous?
Oui, j'ai conclu par quatre choses qu'il faut faire et que nous devons travailler tous comme un peuple. Un, les systèmes. Nous devons changer les systèmes. Celui que nous avons maintenant a fait son temps, il est temps qu'on puisse le changer. Et normalement, chaque génération, chaque 25 ans, on doit changer les systèmes. Deux, c'est l'information. Nous devons nous informer ce que les autres font pour que nous ne puissions pas naviguer à vie. Et trois, la formation. Nous devons obligatoirement tailler la formation sur base des réalités actuelles de l'économie mondiale actuelle et des exigences, des critères qui demandent les autres. Et finalement, il faut avoir accès. Le dernier parlait des bourses d'études. Nous sommes parmi les rares pays du monde où l'enfant paye pour l'école maternelle jusqu'à l'université. C'est dangereux ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour que les enfants aient accès, du moins, à la capacité d'étudier s'ils veulent étudier? Donc, je pense qu'à ce moment-là, et la politique, oui, joue un grand rôle, l'économie, la technologie, et être internationale, mais les systèmes, nous devons les changer. L'information, il faut que les enfants aient l'information correcte, même pour sauver l'emploi, là, il faut que l'information soit là, et la formation, il faut que notre éducation réponde aux besoins du monde actuel, et l'accès. Voilà donc ce que je pense. Le Congo, c'est un géant, et qui va courir.
Voilà, professeur Nzita, Stéphane, vous êtes docteur en management de l'administration internationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.
Merci, au revoir.
Allô? Allô? Mais il ne répond pas?
Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à Lengoy qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie César Bongonda. Un programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Mungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. On se retrouve demain dans un autre débat. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.